Frères et sœurs, je vais vous apporter un message assez court et simple. Simple à comprendre. Le problème, s'il y a problème, c'est que nous les hommes, en général je dis hommes et femmes bien sûr, nous ne sommes pas simples. Nous avons tendance à compliquer les choses, ce qui peut amener des difficultés dans nos vies. Pour commencer, nous allons lire deux textes dans la Genèse et dans le deuxième livre des Rois. Premier texte, donc, dans la Genèse au chapitre 15, versets 1 à 6. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit « Seigneur Éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant. » Et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Le deuxième texte se trouve dans le deuxième livre des Rois, chapitre 18, versets 1 à 6. La troisième année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en eut point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel, il ne se détourna point de lui et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Quel lien donc entre Abraham et Ézéchias? Il y a environ 1300 ans entre Abraham et le roi Ézéchias. Ézéchias fait partie de la postérité promise par Dieu à Abraham dans le passage précédent, aussi nombreuses que les étoiles du ciel. Et en Genèse au chapitre 17, versets 5 à 6, Dieu dit à Abraham, « On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations, je te rendrai fécond à l'extrême, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. » Ézéchias est roi, il a régné environ de 715 à 687 avant Jésus-Christ. Donc il fait partie des rois qui viennent de la postérité donc d'Abraham. Mais ce n'est pas le seul lien donc qui unit ces deux hommes, malgré les siècles qui les séparent. Là, c'est un lien de sang, c'est un descendant. Mais ce n'est pas le seul lien que je voudrais souligner entre ces deux hommes. Ce qui les unit, c'est la même confiance, la même foi en Dieu. Il est écrit, Abraham eut confiance en l'Éternel. Et Ézéchias mit sa confiance en l'Éternel. Ce qui caractérise ces deux hommes, c'est leur confiance en Dieu, l'Éternel. Est-ce que l'on pourrait dire cela de nous? À travers les circonstances de notre vie, sans être roi, si quelqu'un écrivait les chroniques de notre vie, pourrait-il écrire « Étienne mit sa confiance en l'Éternel, il fut attaché à l'Éternel. » Mettez votre nom, votre prénom dans cette phrase. Votre prénom mit sa confiance en l'Éternel, il fut attaché à l'Éternel. Est-ce que c'est ça qui caractérisera votre vie? Cela doit être une caractéristique de notre vie, plus que nos capacités, nos dons, nos qualités, notre généalogie. C'est la confiance en Dieu, la foi en Dieu qui doit caractériser notre vie. Et personnellement, j'aimerais que mes enfants retiennent ça, plus que tout le reste. Ésaïe, au chapitre 30, verset 15, nous dit « Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. » Quand je disais au départ, le problème, s'il y a problème, c'est nous, c'est l'homme. Parce que le voulons-nous? Le peuple d'Israël ne l'a pas voulu. Dieu nous dit de lui faire confiance pour notre salut, pour recevoir la force. Dieu est prêt à tout pour nous. Mais le voulons-nous vraiment? Souvent, nous voulons compter sur nos capacités, notre intelligence, notre conception, notre orgueil nous pousse à nous débrouiller seuls. Ça ira, je vais me débrouiller. N'avez-vous jamais entendu cette phrase ? Croyons-nous que Dieu veut nous brider, nous mettre sous sa coupe ? Au contraire, Dieu veut notre bonheur et notre épanouissement. Au psaume 52, le psalmiste dit « Et moi, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bonté de Dieu éternellement et à jamais. » Je me confie dans la bonté de Dieu. Malheureusement, même au sein du peuple de Dieu, du peuple d'Israël, qui avait vu Dieu à l'œuvre dans la délivrance de l'esclavage, la confiance n'était pas complète. Et Dieu le reproche à son peuple. Dans Deutéronome chapitre 1, versets 29 à 33, je vous dis, ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous, sous vos yeux, en Égypte, puis au désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils, pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Malgré cela, vous n'eûtes point confiance en l'Éternel, votre Dieu, qui allait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement, la nuit, dans un feu, afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher, et le jour, dans une nuée. Malgré cela, vous n'eûtes point confiance. L'attitude inverse de celle d'Abraham et d'Ézéchias. Naturellement, nous ne sommes pas meilleurs que le peuple hébreu. Que nous faut-il pour faire confiance? Qu'attendons-nous? Le Seigneur a agi pour nous, pour nous tirer de l'esclavage du péché, pour nous retirer de l'autorité du Pharaon, c'est-à-dire l'autorité de Satan. Malgré cela, nous manquons parfois de confiance, alors qu'elle devrait être totale et sans réserve. Dans le psaume 78, le psalmiste rappelle l'histoire d'Israël, et il la rappelle sans édulcorer le récit, au contraire. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leurs désirs. Ils parlèrent contre Dieu. Ils dirent, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Voici, il a frappé le rocher et les eaux ont coulé. Et des torrents se sont répandus. Pourra-t-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? L'Éternel entendit, et il fut irrité. Un feu s'alluma contre Jacob, et la colère s'éleva contre Israël, parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. Avons-nous conscience que parfois nous devons irriter Dieu? Quand malgré toutes les preuves de son amour, nous doutons de son aide et de son intervention, nous doutons de son secours. Dans l'Évangile, Jésus dit aux Juifs et à ses disciples, race incrédule et perverse. Répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Nous ne sommes pas mieux que les disciples et les juifs. Hein? Notre incrédulité, notre manque de confiance dans la toute-puissance et l'amour du Seigneur peut l'irriter. Examinons-nous. Qu'est-ce qui nous donne le sentiment d'être en sécurité dans notre vie quotidienne, hein? Est-ce que le fait d'avoir un bon compte en banque, ça nous donne un sentiment de sécurité? D'avoir un système d'alarme sophistiqué? D'avoir des portes avec des serrures 3 points? Une bonne assurance habitation? Une bonne assurance santé? Les Israélites se sont confiés dans leur propre force, dans leur système de défense. Mais Dieu leur dit qu'une nation viendra de loin pour les combattre. Nous le lisons dans le Deutéronome 28, 51 et 52. Elle mangera le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle ne te laissera ni blé, ni mou, ni huile, ni portée de ton gros et de ton menu bétail, jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. Elle t'assiégera dans toutes tes portes, jusqu'à ce que tes murailles tombent, ces hautes et fortes murailles sur lesquelles tu auras placé ta confiance, dans toute l'étendue de ton pays. Elle t'assiégera dans toutes tes portes, dans tout le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Les fortes murailles, c'était des systèmes de sécurité contre les envahisseurs. On sait ce qu'elles valaient devant la puissance de Dieu quand on lit la conquête de Jéricho. Les hommes ont bâti des châteaux forts, des citadelles, des blocos. Mais d'autres hommes ont inventé des armes de plus en plus puissantes, des catapultes, des canons et des boulets, des bombes, des avions, des missiles, des fusées. Et même sur le plan de l'informatique, les remparts informatiques sont craqués par des hackers. Il n'y aura jamais de sécurité totale sur la terre. Si nous croyons que Dieu nous donne toutes choses, croyons aussi qu'il peut nous garantir la sécurité. Lui seul peut déjouer les plans des hommes. Le jour où vous prenez une bonne assurance et que vous ayez un accident et que vous mourrez dans cet accident, l'assurance, elle ne servira à rien. Seul Dieu, lui, est capable de vous faire échapper à l'accident. L'assurance ne peut rien. Pouvons-nous nous confier dans l'homme, dans nos collègues, nos amis, etc.? Le prophète Isaïe nous dit « Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il ?» La parole de Dieu va même jusqu'à nous dire de nous méfier de nous-mêmes, de notre propre cœur. Dans le Proverbe 28, verset 26, « Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. On connaît tous des personnes sûres d'elles-mêmes, de leur capacité, de leur intelligence, des personnes suffisantes qui croient en elles-mêmes, en leur propre cœur, en eux-mêmes. N'en soyons pas impressionnés. Si nous manquons d'assurance, c'est pour que nous placions notre confiance en Dieu. Être confiant quand tout va bien, c'est facile. C'est quand les temps sont plus difficiles que la confiance témoigne de notre foi en Dieu. L'apôtre Paul a renoncé à mettre sa confiance en lui-même. Il nous l'explique dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 1, versets 8 et 9. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certain notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'était la même foi qu'Abraham, qui pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. C'est ce que nous lisons dans Hébreux, chapitre 11, verset 19. Craignons-nous pour notre vie? Ce n'est pas en l'homme que nous mettons notre confiance, mais en Dieu seul. Le prophète Jérémie nous a donné un texte très fort. Jérémie 17, versets 5 à 8. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Frères et sœurs, il ne faut pas être grand prophète pour comprendre que la vie va devenir de plus en plus difficile sur cette planète. Alors je voudrais vous laisser ce simple message. Confiez-vous de tout votre cœur en notre Dieu, l'Éternel, et en son Fils Jésus-Christ. Lui seul vous accompagnera de façon indéfectible. Lui seul saura vous garder et vous amener dans son royaume. Car le Seigneur nous l'a promis, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen.